Make some noise.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Derrière.
Derrière.
L'objectif.
L'objectif.
Derrière l'objectif.
Alors si je paraphrase l'un des détenus que j'ai rencontré là-bas, la prison de Nuuk, c'est un camp de vacances.
Récompensé à plusieurs reprises pour son travail photographique, notamment 3 World Press, 2 Grands Prix Paris Match, 2 Picture of the Year, Olivier Laban-Mattei a entrepris en 2019 un nouveau voyage avec Lisandre, son fils de 20 ans, au Groenland. Au cœur du réchauffement climatique, les enjeux y sont nombreux. La banquise fond, les routes maritimes se libèrent et les enjeux miniers sont également très importants puisqu'on dit que le Groenland hébergerait la 2e réserve de terres rares dans le monde. C'est ce qui sert à tous nos appareils électroniques. Beaucoup de convoitises donc sur cette terre et un peuple qui est le seul peuple autochtone de l'Arctique à avoir les capacités politiques d'être maître de son destin, même si le gouvernement groenlandais est toujours sous la couronne danoise, puisque ça fait 300 ans cette année, en 2021, que le Groenland a été colonisé. Derrière l'objectif d'Olivier Laban-Mattei, nous sommes en 2019 au Groenland.
On s'est intéressé au Groenland parce que c'était un peu dans la continuité de ce qu'on avait fait en Mongolie. Une société qui change énormément sur fond de réchauffement climatique.
Chômage, crise identitaire, isolement, autant de facteurs qui plongent les Groenlandais dans le désarroi. Tiraillés entre tradition et modernité, les jeunes sont les plus fragiles.
On a besoin de plus de travail. Mais en même temps, s'il y en avait, les gens ne travailleraient pas. Ils sont trop occupés à boire.
Un manque de perspective fatal à de nombreux jeunes. Le Groenland remporte chaque année la palme du désespoir, avec le taux de suicide le plus fort au monde, 8 fois plus élevé qu'en France.
C'est terrible, mais ce chemin du suicide, on a tous été tentés de le prendre un jour.
On est en décembre 2019, janvier 2020. On part au Groenland. On part à Nuuk. Dans la capitale. C'est une ville très occidentale, très européenne, avec ces immeubles modernes. Alors il y a une petite partie qui est du côté du port colonial, qui est faite de petites maisons qu'on connaît sur les cartes postales du Groenland, très colorées, en bois, voilà, très plutôt scandinave. Et le reste de la ville, c'est du bâti en béton, comme on peut voir un petit peu partout dans nos capitales. C'est très très différent du reste du Groenland. D'ailleurs, les Groenlandais hors de Nuuk l'appellent la petite Copenhague. Voilà, ça dit ce que ça dit. On est dans une société à deux vitesses, une société avec beaucoup de pauvreté, notamment dans la capitale, mais partout dans le pays en général, où on a les meilleurs postes, les plus importants, les mieux rémunérés, qui vont aux Danois, et les postes difficiles, pénibles, peu rémunérés, qui sont réservés, on va dire, aux Groenlandais, aux Inuits. Il y a 90% d'Inuits au Groenland et 10% de Danois à peu près. Et j'avais en tête aussi de faire un sujet qui me permettait en même temps de rencontrer du monde, d'aller un petit peu plus en profondeur. J'avais pris des contacts auprès de la direction des prisons du Groenland et j'avais obtenu une autorisation pour passer deux semaines dans la prison de Nuuk, une prison très particulière puisque c'est une prison à moitié ouverte. Au Groenland, la loi ne punit pas, elle vise la réinsertion. Cette loi qui date de 1954, si je ne me trompe pas, a été faite à une époque où il y avait encore beaucoup de villages, beaucoup de petites communautés. Si une personne commettait un délit, ou même un meurtre, ou même un viol, ou ce genre de cas grave, enfermer la personne risquait de porter atteinte à l'ensemble de la communauté parce que ça pouvait être une personne importante dans le fonctionnement même de la communauté. Et on est un peu aussi dans un système scandinave de il faut toujours donner une seconde chance. Donc quel que soit le crime qu'on a pu commettre, ce n'est pas non plus ça qui définit la personne. Et donc jusqu'à présent, jusqu'en 2019 en tout cas, à Nuuk, il n'y avait qu'une prison ouverte. Et les cas les plus graves, vraiment les personnes très très dangereuses pour la société étaient déportées au Danemark. Donc moi j'ai passé deux semaines dans la prison ouverte parce que je trouvais que c'était intéressant de voir comment les prisonniers eux-mêmes vivaient cette expérience, sachant qu'au quotidien donc il n'y a pas de barreaux aux fenêtres, et prison ouverte sous-entend qu'ils ont la clé de chez eux. Ils peuvent sortir dans la journée pour aller travailler, seulement pour aller travailler. Et ils ont trois fois par semaine la possibilité d'aller visiter pendant trois heures leur famille et le dimanche entier. Là, il y avait peu de personnes, il n'y en avait que 12. Alors, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas sur le même rapport de population. Hein. Au Groenland, il y a 57 000, 58 000 habitants et il y en a 19 000 dans la capitale. De la récidive, il y en a énormément, et essentiellement d'ailleurs sur les délits liés à la vente de cannabis. Le cannabis là-bas est la seule drogue qui circule dans le pays, mais c'est un business énorme puisque actuellement, et d'ailleurs plus depuis le Covid, un gramme de hash coûte plus cher qu'un gramme d'or. Après, il y a un autre phénomène qui est très intéressant en prison, c'est qu'on trouve des gens qui font exprès de commettre certains délits pour avoir un toit. Du fait de cette grande pauvreté, on a beaucoup de personnes sans abri. même des personnes qui ont un emploi n'ont pas les moyens de se payer un appartement à Nuuk parce que les prix des loyers sont excessivement chers et le parc locatif municipal à loyer modéré est très difficile d'accès. L'attente en moyenne est de 20 ans. Alors si je paraphrase l'un des détenus que j'ai rencontré là-bas, la prison de Nuuk, c'est un camp de vacances. Les gardiens ne sont pas armés. Une grande majorité n'est même pas formée. C'est-à-dire qu'on leur a donné un uniforme. Pour le coup, des très jeunes gardiens de 20 ans qui sont totalement inexpérimentés et sans armes face à des gens qui peuvent parfois en imposer. On arrive là-bas, on est assez étonné. Je me suis posé et très vite j'ai noué contact parce que ils sont ravis de voir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'est pas prisonnier, qui s'intéresse à eux. Donc la discussion est très facile. Finalement, tout le monde parle de ces délits, de ces crimes très 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 facilement. Par exemple, ce Peter qui avait 50 ans, qui après avoir trop bu un soir, a tué sa femme. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Plein de rencontres intéressantes et c'est toujours compliqué d'en sortir une, mais il y en a une en particulier qui était assez étonnante, c'est celle avec Timmy, qui était, on va parler au passé parce que j'espère qu'il ne l'est plus, le plus grand dealer de hashish du pays et qu'on appelle là-bas The Boss, qui est craint par le Groenland dans sa totalité. Cet homme-là, c'est un homme de 32 ans qui est une force de la nature. Il est imposant aussi haut que large, mais tout en muscles et oui, tatoué de partout. Voilà, très très imposant. Lui a la chance, a eu la chance d'avoir de trouver un travail pendant son incarcération et c'est un Danois qui lui a donné cette chance, un Danois qui a une entreprise de réparation de bateaux sur le port, qui lui a dit « Moi, je veux bien te prendre avec moi, mais par contre, tu vas arrêter tes conneries. » C'est quelqu'un qui lui a parlé comme jamais on lui a parlé. Tout le monde le craint et lui, il a décidé de lui parler autrement, de remplacer finalement le père que Timmy n'a jamais eu. Et Timmy avait besoin de ça pour se construire. Timmy, c'est quelqu'un qui a grandi sur l'île de Disco, qui est une île qui fait à peu près la taille de la Corse, dans le nord du pays. Quelqu'un qui a vécu dans la violence. Son père ne s'est jamais occupé de lui, donc il a vécu dans le manque. Et il s'est construit comme ça une vie de bandit. Alors, il est intéressant déjà parce qu'il est à moitié danois, à moitié groenlandais. Il représente, comme beaucoup de gens là-bas, cet antagonisme entre ces deux cultures, ce conflit intérieur qu'il peut y avoir avec ces deux cultures. Pour ça, c'était très intéressant. D'ailleurs, il porte sur lui en pendentif le marteau de Thor et la représentation de l'Inuit sur la même chaîne. Donc moi, j'ai pu, comme ça, accompagner Timmy tous les jours sur son lieu de travail, le voir apprendre, le voir travailler dans les moteurs des bateaux. Puis j'ai eu la chance aussi, du coup, de l'accompagner dans sa famille, rencontrer sa femme, sa petite fille. Et puis, peu à peu, on a sympathisé. On a sympathisé jusqu'au deuxième voyage que j'ai fait avec mon fils, où là, on est allé encore un petit peu plus loin dans la relation. projet avec mon fils, c'est, on part en fait d'une nouvelle, d'un roman. Un roman écrit en 1931 par un monsieur qui s'appelle Hakulung, qui était politicien et écrivain groenlandais. C'est le deuxième roman de la littérature groenlandaise. Il a écrit en 1931 un polar, une enquête policière, une histoire qui se déroule au Groenland en 2021. Alors pourquoi il l'a écrit sur le Groenland de 2021 ? C'est que 2021 marque aussi le tricentenaire de l'arrivée du premier Danois sur le sol groenlandais, et donc qui a marqué le début de la colonisation danoise. Il imagine un pays, finalement un pays de cocagne, où tout fonctionne parfaitement, où le Groenland est au centre de l'échiquier politique, où économiquement c'est un pays très prospère, où les gens sont tous éduqués, où voilà, le niveau de vie est très élevé. Et c'est sûr que quand on voit ce qu'est le Groenland en 2021, on est un peu loin de cette vision-là. En 2021, on a voulu travailler sur le Groenland de 2021. On se servait en fait un petit peu de moteur pour fouiller un peu la société groenlandaise actuelle. Donc c'est le travail que j'ai fait en photographie. Et Lisandre, mon fils, lui, va écrire un roman d'anticipation, donc de la même manière que Hakulung l'a fait en 1931, mais lui va se projeter en 2051 et imaginer le Groenland de 2051. On a demandé à tous ceux qu'on a pu croiser sur le terrain comment ils voyaient leur pays. Pourquoi 2051 ? Parce que c'est aussi le tournant du siècle, selon le GIEC, le point de rupture, le point de bascule. Alors, depuis quelques semaines, on dit même que ça risque d'être avant 2051. L'irréversibilité du climat, le moment où, de toute façon, on ne pourra plus rien y faire. Et les Groenlandais sont aux premières lignes du changement climatique. Je pense que Timmy aura un rôle dans le livre, c'est à peu près sûr. Surtout que le deuxième jour du second voyage, donc celui que j'ai fait avec mon fils, on va voir Timmy. Tout de suite, il nous fait ce soir, si ça vous dit, on va aller chasser le phoque. Ça faisait deux jours qu'on était là. On va aller chasser avec deux amis. À 19h après le travail, on part sur son insubmersible, sur son semi-rigide, comme il dit. Il nous pose le bateau, des boudins tout dégonflés, il est gonflé à la main, comme ça, vous inquiétez pas, c'est un semi-rigide, ça peut pas couler. Et on part comme ça avec ses deux amis, chasser le phoque. On était sur une mer d'huile, les montagnes encore enneigées qui tombent dans la mer. Pas trop froid. Tout était serein, on voyait des troupeaux de rennes sauvages au loin, des villages abandonnés. Et Timmy arrête le bateau et puis on commence à... Voilà, il s'entraîne à tirer sur des algues flottantes, choses comme ça. Et à un moment, nous on était avec Lisanne, on était à l'avant avec l'autre ami. Et le bateau commence à s'élever. De notre position, il s'élevait. Et on était à 45 degrés. Au départ, on se disait, c'est parce que le moteur est à fond et on a pris de la vitesse, donc le bateau s'élève et en fait, on s'élevait vraiment beaucoup. Et là, j'entends Timmy hurler. Il commence à jeter les sacs, les fusils tout à l'avant du bateau et en fait, on se rend compte qu'il a de l'eau jusqu'aux genoux. Et quand on tombe dans l'eau au Groenland, c'est pas bon signe. On ne peut pas y rester très très longtemps en fait. On a... L'espérance de vie, elle est de quelques secondes. Et donc l'ami qui lui-même était blême, terrorisé, continue à mettre les gaz pour essayer de rejoindre les côtes le plus vite possible. Et Timmy qui criait « Mais non, mais ralentis, plus tu accélères et plus l'eau rentre. » Donc Il arrête le bateau, il freine le bateau, et en fait, on se rend compte que c'est la pompe à eau qui ne marche plus, donc plus on accélère et plus l'eau rentre. Et donc finalement, on arrive à enlever la majeure partie de l'eau dans le bateau. Donc les visages se détendent, on recommence à respirer un petit peu, mais on est très très loin de nous, qu'on a mis une heure à descendre à grande vitesse. Et là, pour remonter, on savait qu'il nous fallait du coup peut-être 6 heures, 7 heures pour remonter. Si on voulait aller jusqu'au port, tout doucement, en espérant que ça sombre pas. Et puis finalement, ils se rendent compte que le bateau tient. Donc pourquoi s'empêcher d'aller chasser ? Donc nous voilà partis sur, sur une partie de chasse, alors qu'on était en train de couler quelques minutes auparavant. C'est ça les Groenlandais, c'est cette espèce de fatalité face à la mort. Alors même si bien sûr eux aussi n'emmenaient pas large, et même si Timmy finalement derrière a explosé de rire en disant que tout était maîtrisé, bien évidemment il était totalement blême. Mais voilà, c'est ça aussi les Groenlandais, c'est cette espèce de défi permanent face à la mort, face à la nature, et finalement soit l'acceptation, soit la vie continue, quoi. Ils sont vraiment dans un état de où ils vivent de manière spontanée et immédiate, en fait, et sans jamais aucune projection.
Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.